Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks. Un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, nos amis les bêtes. Et aujourd'hui, l'intelligence du perroquet, un documentaire d'Anne-Cécile Perrin réalisé par Véronique Villa. On croise parfois dans sa vie un perroquet. Un beau au plumage gris comme les toits de Paris, un bleu lumineux et exotique, un rouge et vert qui pourrait être imprimé sur une chemise d'été, ou un blanc à crête jaune avec leur gros bec noir, leur serre impressionnante et leurs yeux ronds et fixes. On a pu les voir perchés sur une épaule, mordillant une oreille, imitant la chasse d'eau ou le téléphone. On les connaît jaloux et possessifs, chargeant à pied et tête baissée un ennemi ou un rival, se balançant avec des involtures suspendues par une patte à leur perchoir, ou alors cassant des noix comme un rien. On sait qu'ils vivent longtemps, on peut jouer avec l'idée qu'ils nous survivent. Et puis on en voudrait un parfois, un chez soi, pour faire son malin dans la rue, pour avoir une figure de proue portative, se faire remarquer, et pour être un peu un pirate en secret. Alors aujourd'hui, troisième volet, parfois, on a trop de perroquets.
Bonjour, comment ça va? On va aller voir, là, on a les éclectus. Bonjour. Oui, bonjour les éclectus. Alors, dans cette espèce-là, c'est une espèce que j'aime beaucoup parce que c'est une société purement matriarcale. Donc, les bleus et rouges, c'est les femelles. Les verts, c'est les mâles. Les femelles, elles restent au nid, presque tout le temps. Et elles se font servir par les mâles qui sont verts, comme ça, dans la forêt amazonienne, quand ils vont faire les courses dans les arbres, on les voit pas. Ils ramènent à manger à madame. Et récemment, on a trouvé que c'est la seule espèce dont la femelle pouvait avoir jusqu'à 7 maris qui viennent la servir, qui viennent au nid, et il n'y a pas de dispute. La 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 la. Alors elle chante. Elle chante l'opéra, elle adore chanter. Et alors elle a son mâle qui est arrivé l'année dernière parce qu'elle n'avait pas de mâle. Et lui ne chantait pas. Et alors, c'est très drôle parce qu'elle lui a donné des leçons de chant. Elle se mettait à côté de lui, puis il faisait « là, je suis là !» Et puis elle répétait, et maintenant, il chante avec elle. « Qu'est-ce qu'il y a, mes bébés ?»
L'intelligence du perroquet. Un documentaire d'Anne-Cécile Perrin et Véronique Villa. Cacatoès, gris du Gabon, Amazon ou Hara, des noms qui fascinent, mais qui se cachent derrière. Classé en troisième position sur l'échelle de l'intelligence animale, juste après le dauphin et le singe, les perroquets sont dotés de facultés tout à fait surprenantes et pourtant encore méconnues. Dans les domaines de la cognition, du langage, des relations sociales, ils étonnent chaque jour un peu plus passionnés et chercheurs. Pour comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau du perroquet, nous sommes partis à la rencontre de scientifiques qui étudient perruches et gris du Gabon dans leurs bureaux et laboratoires. Pas à pas, nous suivrons les propriétaires passionnés dans leur quotidien, Suzy Libart, présidente de l'Association européenne du perroquet, et Isolde Di Marco, chirurgien-dentiste, prêtes parfois à sacrifier une partie de leur vie pour s'occuper de leurs compagnons. Et pour débuter ce parcours scientifique animal et humain, en cage ou en volière, c'est Isulte et ses 8 perroquets qui nous ouvrent la porte de sa maison coquette de Savigny-sur-Orge en région parisienne.
Bonjour. Eh bien, on y va. Les Amazones, parce que les Amazones, ça crie beaucoup. Et donc derrière, j'ai une voisine qui ne supporte pas. Donc du coup, je les mets devant, les Amazones.
Ah, et toi, tu vas sortir maintenant. Voilà, super.
Voilà, donc vous les entendez. Je suis en train de faire les fruits. Voilà, donc ça c'est la pièce où vivent mes Amazones. Voilà, donc là j'ai les trois Amazones qui sont là et puis les deux gris du Gabon. Alors là on était en train de couper les pommes.
Donc vous les laissez en liberté pendant les moments du repas?
Ah oui, oui, oui. De toute manière, quand ils sont avec moi, je les laisse en liberté. Oui, oui, tout à fait. Ils ne sont enfermés que quand je travaille ou, bon, hier, le week-end, je peux pas les avoir tout le temps. On ouvre les portes, voilà. Mais sinon, oui, oui, là, tout le temps. Ah oui, un oiseau, ça s'enferme pas. Gourmandise, je l'ai depuis 2008. Donc, c'est mon plus vieux perroquet. Après, j'ai eu Juju. Un petit Amazon Amazonica. Juju est là, ça c'est sa sœur, Chouchou, que j'ai eu après. Zoé, que j'ai récupéré, quelqu'un qui l'avait acheté et puis qui, 15 jours après, n'en voulait plus. Et puis ça, c'est Vegas, que j'ai récupéré aussi, quelqu'un qui n'en voulait plus au mois d'août.
Vous les reconnaissez comment?
Juju, le dessus de la tête est plus jaune. Et puis après, même les cris, la façon de faire, etc. Hein, voilà. Vegas, elle est plus petite quand même que Zoé. Mais c'est pareil, hein, c'est pas du tout le même caractère. Hein. Alors, le petit déjeuner, en fait, les perroquets mangent beaucoup énormément de fruits. Je donne du kiwi, de la banane, de la clémentine, de l'ananas, de la mangue, de la poire. Beaucoup de raisins, par exemple, les gris du Gabon adorent le raisin et la grenade. Ils adorent. Et là, j'ai plus de grenade, hein, on en a trouvé nulle part. Alors là, ça va être un peu dur pour eux. Sinon, chaque perroquet a son fruit préféré. Juju, par exemple, c'est la poire. Gourmandise, il préfère la banane. Et puis, Chouchou, c'est l'orange. Dans la cuisine, ils sont installés sur les perchoirs. Voilà, je laisse ça en permanence. Ils ont leurs jouets et puis ils ont beaucoup de jouets là aussi. Du reste, les gris du Gabon balancent beaucoup. Quand ils mangent, ils jettent les fruits. Ils prennent le fruit et tchou, ça y jette. Et les jouets, c'est pareil. Donc, ils prennent ce que ne fait pas l'Amazone, hein, du tout. Hein, Zoé? Oui, oui, t'es pas contente. Hein.
Elle approuve.
Il y a du monde. Oui, tu râles un petit peu. Oui, tu râles un petit peu.
Parce qu'elle n'aime pas les inconnus?
Oui, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup avec moi. En fait, ils ne sont qu'avec moi. Et puis, il y a moins de passages maintenant. Hein. Les enfants sont partis, donc il y a moins de passages. Donc, oui. Le perroquet, il aime bien son humain chouchou. Hein. Le gris imite beaucoup, donc il regarde faire et après il fait la même chose. Donc effectivement, j'avais un gris, un mâle, qui un jour j'avais sorti un gris pain pour la première fois et il est venu à côté de moi sans rien faire et voilà. Et je me suis servi donc du gris pain, j'ai mis les tartines, j'ai fait griller le pain. Il a vu les tartines ressortir, il écoutait, il bougeait pas et il me regardait faire. Eh bien, le gris du Gabon, alors que je l'avais fait qu'une seule fois, il est allé, il a soulevé le bouton pour récupérer les deux tartines. J'ai trouvé ça formidable, enfin, c'est extraordinaire. Il l'a vu faire une fois. Ça, l'intelligence du gris, par exemple. Le litchi, il ne faut pas qu'il mange le noyau qui est à l'intérieur, c'est très toxique. Et donc, les Amazones, par exemple, et pourtant, elles me voient faire depuis des années, je suis obligée de retirer le noyau, parce que si je laisse le noyau dans le litchi, elles vont manger le litchi, mais en même temps elles coupent, même si elles ne le mangent pas, mais des fois elles peuvent arriver à le manger. Le gris, je n'ai plus besoin de retirer les noyaux, je mets les litchis directement dans les gamelles et elles savent qu'elles ne doivent pas manger le noyau. Bravo. Bravo.
Yeah, hi. My name is Irene Pepperberg. I'm a lecturer.
Je m'appelle Irene Pepperberg. Je travaille à l'université d'Harvard et j'étudie l'intelligence des perroquets gris du Gabon que je compare aux capacités des enfants, des chimpanzés, des dauphins, des singes et d'autres animaux marins.
Pourquoi le cerveau du perroquet est-il si différent du cerveau du dauphin, par exemple, ou du singe, qui sont des animaux considérés comme intelligents?
Le cerveau du perroquet a une taille plus petite, mais en proportion, la part du cerveau relative à l'intelligence chez le gris du Gabon est la même que chez le chimpanzé. Le cerveau du perroquet est organisé différemment et ne ressemble pas au cerveau du chimpanzé, mais il fonctionne de la même manière.
Vous avez travaillé longtemps avec le perroquet Alex, c'est un gris du Gabon. Qu'est-ce que vous avez fait comme expérience avec lui et qu'est-ce que vous avez réussi à montrer?
Il a le niveau d'intelligence d'un enfant de 5-6 ans, même si ses capacités de communication sont celles d'un enfant de 2 ans, 2 ans et demi. Nous lui avons d'abord demandé d'identifier différents objets et il a appris à en discerner environ 50. Il a appris à distinguer 7 couleurs, 5 formes, les chiffres jusqu'à 8, et à la fin, nous avons réussi à prouver qu'il savait compter exactement comme nous.
Il a acquis aussi les concepts de petit et grand, de égal et différent, et de l'absence.
Il pouvait répondre à des questions comme « Qu'est-ce que tu veux ?» et il répondait « Je veux des œufs ». Il pouvait situer différents objets dans l'espace. S'il demandait des bananes et que vous lui apportiez du raisin, il vous le jetait dessus. On a fait beaucoup d'études pour montrer qu'il ne se contentait pas de suivre. Si vous sortiez votre carte bleue de votre poche, par exemple, il pouvait identifier la forme sans connaître l'objet au préalable. Il pouvait parler à n'importe qui entrait dans le labo. Ce n'était pas seulement nous, d'autres personnes pouvaient comprendre ce qu'il voulait dire. Il est évident qu'il comprenait ce qu'il disait et qu'il identifiait les concepts utilisés dans les expériences.
Bonjour.
C'est mieux parce que les oiseaux ils sont habitués en fait.
Normalement, c'est, d'une part, c'est réglementaire. Mais surtout, ils sont habitués. Donc, je regarde les tailles là.
Je m'appelle Dalila Beauvais, je suis maître de conférence à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et je travaille notamment sur l'intelligence des perroquets et des perruches.
Donc, ici, tout du long, on a des salles d'expérience avec des canaris. De l'autre côté, il y a des diamants mandarins.
Donc, ici, on va aller voir les perruches.
On siffle toujours avant d'entrer pour prévenir les oiseaux. Donc comme ce sont des animaux craintifs, ça fait partie des précautions qu'on prend pour ne pas les affoler.
Je suis Agatha Guévin-Bazin et je suis doctorante en première année sous la direction de Dalila Beauvais et de Auguste von Bayern en Allemagne. Et je travaille sur la théorie de l'esprit et l'empathie, donc à la fois chez les perruches calopsites et chez les corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Moi, en fait, mon travail, c'est sur donc la théorie de l'esprit et l'empathie chez les oiseaux. C'est un manteau qu'on peut inférer chez l'autre.
Et quelles sont les expériences que vous avez réalisées avec ces perroquets gris du Gabon?
Les premières séries d'expériences étaient sur la communication référentielle. Alors, communication référentielle, ça veut dire communiquer de façon précise sur des objets ou des événements du monde extérieur. Donc, on a voulu savoir, notamment, évidemment, si quand les perroquets parlent, ils comprennent ce qu'ils disent, ou s'ils font juste répéter des mots qu'ils ont entendus. Et on a essayé pour ça de leur apprendre à nommer de façon précise des objets. Donc par exemple, est-ce qu'on peut montrer à un perroquet un stylo en lui disant qu'est-ce que c'est et qu'il réponde stylo? Alors la réponse est oui, on peut y arriver. Mais nous, ça nous a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Ce qui nous a surpris parce que par rapport aux expériences d'Irène Pepperberg, qui elle était arrivée avec son perroquet Alex à faire des choses très poussées, nous, on savait tout ça quand on a commencé avec nos perroquets, donc on se disait « youpi, on va pouvoir aller très loin aussi ». Et puis finalement, il s'est avéré que déjà simplement leur apprendre justement à dire « stylo » quand on leur demande qu'est-ce que c'est, c'était pas si facile que ça. Alors on s'est demandé pourquoi, c'est probablement en partie parce que nos perroquets vivaient en groupe, tandis que Irène Pepperberg avait élevé son perroquet Alex tous en tête à tête avec elle-même. Et ça, c'est probablement important pour motiver l'oiseau à parler en fait. Parce que nous, ils pouvaient communiquer entre eux, du coup, ils étaient moins intéressés à agir avec nous. Il y avait aussi une question de privation, parce que justement, Alex, elle lui coupait les plumes des ailes, donc il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Dès qu'il voulait un jouet ou une friandise hors de son régime alimentaire, il fallait qu'il apprenne à la demander. Donc c'était un peu le régime dur qui a fait que du coup il était très motivé forcément pour apprendre à parler. Ils ont quand même réussi à apprendre quelques mots, mais on a aussi comparé différentes méthodes. Donc on a commencé par utiliser la méthode d'Irene Pepperberg, qui est la méthode du modèle et du rival. Donc il y a deux personnes qui interagissent en face à face. Par exemple, je prends un stylo, je vous le montre à vous, je vous dis qu'est-ce que c'est. Si vous me dites stylo, vous allez recevoir le stylo, mais de temps en temps, vous allez aussi faire exprès de vous tromper, vous allez dire autre chose, vous allez dire grec comme un perroquet, et à ce moment-là, je dis non et je cache le stylo derrière mon dos. Donc le perroquet voit cette interaction, et ça s'appelle la méthode du modèle rival, parce que vous êtes à la fois le modèle pour le perroquet, vous lui montrez ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et en même temps, vous êtes son rival, parce que vous rivalisez avec lui pour mon attention ou pour obtenir l'objet. Déjà, pendant les 2 ans où on faisait ça, de façon intuitive, on parlait aussi avec nos perroquets, comme on le fait tout naturellement avec nos animaux familiers. Et on s'est aperçu qu'ils avaient appris des mots comme ça qu'on n'avait même pas l'intention de leur apprendre. Par exemple, ils disaient bonjour ou ça va quand on entrait dans la pièce. Ils disaient au revoir quand on partait, quand je prenais mon sac, ils voyaient que j'allais partir, alors qu'ils n'étaient jamais récompensés pour ça. Donc en fait, c'est plus proche de la méthode intuitive avec laquelle un enfant apprend à parler finalement. Vous lui parlez et vous constatez au bout d'un moment qu'il se met à répéter vos mots dans le bon contexte.
C'est Zoé, c'est Vegas, c'est pas très grave. Via Vegas.
Au pire, le gris a grimpé sur la tête de notre réalisatrice Véronique.
Au pire, il va y avoir un petit caca. Hein. Ça, c'est... Voilà, c'est pour ça que moi, je suis en mode perroquet.
Donc là, le gris s'est posé maintenant sur votre tête.
Oui.
Ça, c'est quelque chose d'habituel.
Ah oui, 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 mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'est quelque chose d'habituel. Je leur parle beaucoup, énormément. Et ce qui fait que, eux parlent. Alors là, bon, il y a du monde qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils vont parler, mais c'est possible que tout à l'heure, ils se mettent à parler. Donc, c'est, voilà, quand je m'en vais, ils me disent au revoir, quand j'arrive, pas tous les jours, mais sinon, mes haras surtout, mes haras qui me disent « Maman, maman !» quand je rentre, c'est trop mignon. Mais sinon, quand je les mets en volière, les grises, elles font « Bon, bah, ce soir !» Même si je rentre le midi, mais elles font « Bah, ce soir !» Je crois que c'est mon hara, oui, c'est mon hara chloroptère qui prononce même aspirateur. Parce que je suis tout le temps en train de passer l'aspirateur, évidemment, il y a des graines, il y a des plumes, il y a de la poussière de plumes, etc. Donc je passe beaucoup l'aspirateur, donc elle dit aspirateur, aspirateur. Ça parle bien. Alors mes Amazones ne parlent pas. Gourmandise a parlé un petit peu, et puis après, quand il était très jeune. Mais là, il ne parle plus, mais bon, les gris remplacent le. Je leur parle tout le temps et puis ça s'éduque en fait très très bien, hein, le perroquet. Ça s'éduque extrêmement bien. C'est vrai que c'est très très intéressant. Enfin, moi j'aime bien les animaux que l'on peut pas dresser. Par exemple, je ne suis pas douée du tout pour dresser un chien. Le chien, il faut le dominer, surtout les gros chiens. Moi, c'est un truc que je ne peux pas faire. Mais le perroquet, c'est génial, quoi. On lui parle, on lui dit non, on lui montre que ce n'est pas bien et ça s'éduque. Le perroquet ne se dresse absolument pas. Si on dresse un perroquet, on va droit dans le mur.
Comme l'éducation d'un petit enfant.
Comme l'éducation d'un enfant, pareil. Quand ils font une bêtise, il faut les reprendre, il faut dire non, il faut pas le laisser faire.
Ce qui est intéressant dans le cerveau des perroquets, c'est qu'il est plus gros proportionnellement que les cerveaux des autres oiseaux. Et notamment, la structure qui est le siège de l'intelligence chez les oiseaux, qu'on appelle le striatum, est plus développée chez les perroquets que chez d'autres espèces d'oiseaux.
Et pour revenir à vos expériences, qu'est-ce que vous avez pu démontrer ou prouver par rapport au gris du Gabon notamment ?
Alors ce qu'on a fait, on a fait aussi d'autres expériences où on travaillait sur la coopération. Donc l'idée c'était toujours de voir comment ils utilisent leur intelligence sociale. On voulait voir si deux perroquets pouvaient travailler ensemble. Donc le principe de base c'était qu'on avait une cage dans laquelle il y avait de la nourriture. Pour obtenir cette nourriture, ils devaient tirer en même temps sur une ficelle pour faire approcher le tiroir contenant la nourriture. Donc en se mettant à deux. Au début chaque perroquet essayait de tirer pour lui-même mais ils sont assez rapidement rendu compte qu'il fallait attendre l'autre. Mais ce qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'on avait donc trois perroquets qu'on avait entraînés tous de la même façon, mais ils n'ont pas tous réagi de la même façon, notamment quand on leur donnait le choix du partenaire avec qui coopérer. Donc c'est aussi comme ça que se manifeste leur intelligence. C'est pas juste des animaux qu'on peut entraîner à faire une tâche et qui vont faire systématiquement comme on l'a appris. Ils sont capables de la moduler en fonction de leurs envies, de leur interaction sociale, etc. Chez les perroquets, on a aussi des relations sociales qui sont développées, des oiseaux qui se connaissent pendant longtemps, avec des groupes de taille importante. Et quelque chose en plus chez les perroquets, ça pourrait être la monogamie. Donc il y a aussi une hypothèse qui est proposée, suivant laquelle la vie en couple, notamment quand elle dure longtemps, parce que la plupart des oiseaux sont monogames, mais c'est souvent le temps simplement d'une saison de reproduction. Alors que les perroquets ou les corvidés, l'autre famille intelligente d'oiseaux, ils ont une vie monogame pour leur vie entière en fait. Et donc, comme nous le savons tous, c'est pas forcément facile de garder une relation pour toute la vie. Ça demande de l'intelligence. Et peut-être que c'est aussi la gestion de cette relation particulière, en plus de la relation avec les autres oiseaux du groupe, qui est importante pour stimuler l'intelligence des perroquets.
Qu'est-ce qui se passe pour eux quand ils se retrouvent tout seuls dans une cage, alors ?
Justement, ça peut se passer très mal. Ils essayent de reformer avec leur propriétaire ou la personne qui s'en occupe le plus ce lien de monogamie. Mais normalement, un lien monogame, ça consiste à passer 24 heures sur 24 avec l'être aimé, à le toiletter, à communiquer avec lui. Donc forcément, c'est pas toujours facile à faire avec un humain. Et donc, souvent, ça se passe mal parce que l'oiseau va se retrouver à devenir neurasthénique, il va passer son temps à hurler, il va devenir agressif avec les autres personnes, il va s'arracher les plumes, etc.
On va voir petit Libou. Libou, c'est un cacatoès de Libiter qui est né il y a... Bonjour, Kotchke. Alors, je vais vous montrer. Bonjour, Libou. Bonjour, mon bébé. Oh, t'es pas content. Oh.
Alors, il est tout blanc, ce perroquet, celui-ci.
Il est blanc. Il est blanc rosé, vous voyez. Et puis, oh, il a faim. Et puis là, il a la tête rose et il va avoir une huppe. Vous voyez, ça commence la huppe avec de la couleur plus foncée. C'est un cacatoès de Libiter. Alors, je l'ai appelé Libou, Lib comme Libiter. Et puis, quand il était tout petit, qu'il n'avait pas de plume encore, il avait l'air d'un hibou. Donc, il s'appelle Libou. On va aller lui donner à manger.
Il a quel âge ?
64 jours. Alors, on va nourrir petit Libou. Alors là, je vais faire chauffer de l'eau. La température du nourrissage, c'est 38 degrés, parce que l'oiseau a une température corporelle de 41 degrés. Donc là, j'ai subtilisé un œuf juste après la ponte et juste avant la casse. Je l'ai mis en incubateur. J'aime mieux quand les parents élèvent, mais quand les parents ne le font pas. Alors j'ai sorti l'œuf. Et puis voilà, le petit, au bout de 25 jours, Libou est né. Il était affreux. On dirait un porc-épic. Là, maintenant, il a des plumes. Vous voyez les plumes qui commencent à pousser. Mais avant, il avait tout des tuyaux de plumes. C'était vraiment un porc-épic.
Votre salle de bain, en fait, est devenue un laboratoire, une infirmerie, quoi.
C'est pas une infirmerie. Là, c'est la pièce de nourrissage. Parce que j'ai d'autres endroits pour les perroquets. Mais les tout petits bébés, j'aime mieux qu'ils soient dans un environnement sain, propre. Oui, chérie. Alors, je mélange ma pâtée, la pâtée d'élevage spéciale. Je mélange pour faire une mixture qui est à peu près la consistance d'une bonne pâte à crêpes. Voilà, théoriquement, ma température va être bonne. Voilà. Alors, bon, je parle beaucoup à mes oiseaux. D'abord parce que ça les rassure. Ils m'ont entendu depuis tout 25-30. Ils m'ont... Tu veux manger encore un petit peu ? Oui, mon bébé. Pour les oiseaux qui sont à devenir des oiseaux de compagnie, ils n'ont plus peur ni de la main, ni de la voix humaine. Et donc, tout petits, ils n'ont pas peur. Mais ce qui est important, c'est que de ne pas engranger des peurs quand ils sont tout petits, dans la petite enfance, parce que quand ils deviennent adultes, eh bien... ils ont beaucoup moins de risques d'avoir des comportements non désirés, des comportements agressifs, parce qu'ils ont compris que la main humaine ne leur a jamais fait peur. Évidemment, on fera jamais aussi bien que les parents, mais on a le devoir d'essayer d'être à la hauteur d'un oiseau, de ne pas élever un oiseau comme on élève un bébé, mais d'essayer de penser oiseau, de penser perroquet, pour essayer de se mettre à leur niveau. C'est notre rôle d'éleveur et c'est notre rôle quand on adopte des perroquets de compagnie. Notre rôle, c'est d'être au service du perroquet. C'est pas le perroquet qui est à notre service. Alors là, maintenant, comme tout perroquet qui se respecte, il a bavouillé. On n'a pas mis de bavoir, même si on a utilisé des mouchoirs en papier. Donc de l'eau tiède. Et on va un petit peu faire une petite douche pour nettoyer. Hop, 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 hop. Voilà. Un petit peu. On a nettoyé parce que la pâtée qui reste, ça va être des bactéries qui risquent d'être désagréables pour la santé du perroquet. Monsieur Libou est tout prêt. Hein, tu dis bonjour. Ça va, mon bébé? Et maintenant, on va retourner coucher. Vous voyez, vous avez le jabot qui est plein. Il a mangé, il crie beaucoup moins que tout à l'heure. Il est content. Et maintenant, il va aller faire une petite sieste.
Ça va, mon beau? Ça va, mon gamin?
Ça va.
Non, mais qu'est-ce que tu m'as dit, là?
Ouah, vache!
Au niveau du langage, comment ça se passe physiologiquement pour qu'il puisse émettre ses sons et imiter votre langue?
Alors, un perroquet n'a pas de corde vocale comme nous. Il a ce qu'on appelle la syrinx. La syrinx, c'est une sorte de boîte musicale. Vous savez, ces boîtes à musique qu'on tourne et qui résonnent. Il a une membrane qui fait la résonance. C'est donc la syrinx. Et c'est avec la langue et la résonance de l'air sur la syrinx qu'il émet des sons qui sont de plus en plus proches de notre langage.
C'est pas vrai. C'est pas la terre, hein. Je veux qu'on me clappe, hein. Oh, c'est pas vrai. Virage, mes chiens. Bon, bonjour.
Vous êtes chez Suzy Libard et avec ses perroquets. Comme vous avez pu l'entendre ou comme vous allez pouvoir l'entendre, je suis entourée d'un certain nombre de becs crochus. Certains sont assez bruyants, d'autres plus calmes, d'autres un peu moqueurs comme gamin à côté de moi pour l'instant. Ne vous inquiétez pas si vous entendez un rire de vieille sorcière. C'est gamin qui a l'habitude de se moquer un petit peu de ce qu'on est en train de dire quand il trouve que c'est pas très intelligent. Hein, gamin, c'est pas beau ce qu'on dit là? Voilà.
Gamin, c'est un gris du Gabon?
Gamin, c'est un gris du Gabon qui a 14 ans, qui est arrivé à la maison il y a une petite année et qui s'est tout à fait adapté à sa petite vie à la maison. Il est souvent dans la cuisine.
Vous en avez combien de perroquets chez vous?
Trop. Trop. J'ai une bonne centaine de perroquets. J'en ai qui sont en intérieur, mais pratiquement tout le temps dans des cages qui sont ouvertes. J'ai une véranda avec des perroquets qui sont un petit peu furs, des perroquets en difficulté ou des perroquets qui se piquent ou des perroquets qui ont été abandonnés pour différentes raisons et à qui on essaie de redonner une vie agréable. Et dès l'instant où ils ont pris confiance dans leurs gardiens, dans leurs serviteurs, parce qu'on est plus les serviteurs des gardiens que les propriétaires, hein, on doit se mettre à leur niveau. Il faut les rendre heureux. Un perroquet a la faculté du bonheur. Chez nous, on a l'habitude, chez les humains, de penser à tout ce qui pourrait faire que la bouteille soit à moitié vide. Et les perroquets, eux, font tout ce qu'ils peuvent pour se persuader que la bouteille est à moitié pleine.
C'est votre métier de vous occuper de ces perroquets ?
Plus qu'un métier, c'est une passion. À l'âge que j'ai plus de métier. Mais c'est vrai que le comportement du perroquet est quelque chose qui est important pour moi. J'ai commencé il y a 12 ans à comprendre les perroquets, puisque quand il y a 12 ans, maintenant un peu plus de 12 ans, 14 ans maintenant, oui, le temps passe vite, mon premier contact avec un perroquet qui m'a appelé, qui était abandonné, c'était la belle Cracotte. Eh bien, j'ai dit à Cracotte, qui était toute déplumée, abandonnée dans une oisellerie, dans une toute petite cage, je lui ai dit, bah écoute Cracotte, non, je savais pas qu'elle s'appelait Cracotte, j'ai dit, voilà, écoute, perroquet, moi, j'aime pas les perroquets, c'est sale, ça mord, ça fait du bruit et ça donne des maladies. C'est ce que je pensais il y a 14 ans. J'ai adopté Cracotte parce qu'elle a tout fait pour être adoptée.
Vraiment, elle a crié. Juste à chaque fois que je quittais la pièce, elle criait. Et je suis revenue, je l'ai achetée. Je l'ai ramenée à la maison. Je ne savais même pas ce qu'elle mangeait. J'ai donné des pâtes et du pain parce que je ne savais rien du tout. Et quand elle a pris un petit morceau de pain de baguette qui faisait crac-croc, crac-croc, j'ai dit « Ah ben tu vas t'appeler Cracotte ». Elle a mis sa patte sur mon doigt, elle a serré très fort, elle a commencé à régurgiter, c'est-à-dire ressortir la nourriture, ce que font les perroquets entre eux quand ils se disent des choses gentilles. J'ai mâchouillé du pain, je l'ai mis dans mes doigts, je lui ai donné, elle a mangé, on a échangé la nourriture et on est devenus amis pour la vie. Cracotte est restée avec moi plusieurs années et c'est elle qui m'a donné la passion des perroquets et... Je m'autorise à croire que là où elle est, dans l'arc-en-ciel des perroquets, elle continue à me donner des conseils pour mieux comprendre ses compatriotes perroquets.
Ainsi, voici les hommes du Nouveau Monde.
Oui, Votre Majesté. Dans ces pays, ils vivent tout nus, mais ils peignent leur visage, comme vous le voyez. Nous les avons vêtus pour le voyage.
Mère, quel est cet oiseau ?
Qu'est-ce que c'est, amiral ?
C'est l'oiseau parlant du Nouveau Monde.
L'oiseau parlant ?
Oui, Votre Majesté.
Bonjour, je m'appelle Marc Giraud, je suis naturaliste de terrain, c'est-à-dire que j'étudie la nature dans la nature. J'ai été entre autres éco-guide en Amazonie où j'ai vu beaucoup de perroquets. Et c'est un oiseau vraiment attachant.
Alors là, vous avez choisi de nous retrouver au Jardin des Plantes, à la ménagerie, devant les volières des perroquets. Depuis quand le perroquet a été introduit en Europe ?
Alors ce qu'on dit, c'est qu'ils sont venus en même temps que les conquêtes d'Alexandre le Grand, par un certain navigateur qui s'appelait Onésicrite, qui était aussi philosophe, et qui a amené une perruche qu'on appelle la perruche d'Alexandrie ou d'Alexandre, qui vient d'Inde, donc quasiment, donc elle est venue de loin. Et là, elle a commencé à être apprivoisée, il y en a eu pas mal de spécimens qui sont venus. Donc les perruches d'Alexandre, ça c'était des perruches asiatiques. On a eu aussi des exemplaires qui venaient d'Afrique. Et avec Christophe Colomb, on a eu les aras et tous ces perroquets magnifiques de l'Amazonie. Et on dit même que Christophe Colomb a découvert l'Amérique grâce à des aras qui lui ont montré par leur vol qu'il y avait une terre à proximité. Donc on l'a apprivoisé tout de suite. Mais dans tous les peuples du monde, là où il y a des perroquets, en général, on les garde. Ils fascinent tous les hommes parce que justement, ils nous imitent. Ils sont beaux. Donc les Amérindiens, par exemple, ont des aras chez eux dans leur village très très fréquemment. À l'époque des Romains, un perroquet qui parlait bien valait plus cher qu'un esclave, donc c'était déjà très très en vogue. Et en fait, ce dont on s'est aperçu il y a pas très longtemps, c'est justement les oiseaux sont très intelligents. Parmi les rares animaux qui se reconnaissent dans un miroir, il y a une pie qui est un corvidé. Et les corvidés, c'est-à-dire les pies, les corbeaux, etc., et les psittacidés, c'est-à-dire les perroquets, sont des animaux particulièrement intelligents parce qu'ils ont une zone antérieure du cerveau qui correspond un peu à notre néocortex, qui est très développée. Et se reconnaître dans un miroir, c'est quand même signe qu'ils ont conscience d'eux-mêmes et sans doute conscience des autres, et ils font des choses qui sont quand même extraordinaires. Donc tête de piaf, c'est peut-être pas tout à fait légitime.
Cette capacité à parler, est-ce qu'ils l'ont depuis la nuit des temps, selon vous ?
Alors ils l'ont forcément, hein, ils ont toujours imité leurs congénères, mais l'imitation est typique de la captivité. Et en fait, on pense que c'est une demande sociale, voire une souffrance. C'est pour ça, ça nous fait rire, nous. Un perroquet qui se casse la figure et qui dit « Ah, merde, c'est drôle !» Parce qu'il y a un à-propos où il y a la sonnerie du téléphone et il dit « Allô ?» C'est toujours drôle parce que ça nous projette dans nos histoires d'humains. Mais en fait, ça serait une demande sociale. Ça voudrait dire « J'ai besoin qu'on m'aime. » Voilà, parce qu'ils sont souvent tout seuls et c'est souvent les perroquets seuls qui imitent le plus. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça a essayé de provoquer une réaction chez nous. Et qu'est-ce qui provoque le mieux les réactions ? Ce sont les injures et les obscénités.
Est-ce qu'ils sont capables de parler dans toutes les langues ?
Oui, apparemment oui, puisque dans tous les pays du monde, là où il y a des perroquets captifs, le perroquet imite la langue locale. On sait qu'ils sont venus parler grec, donc ils ont parlé grec, grec ancien, les dialectes grecs. Ensuite, Pline l'Ancien en a parlé, ils ont parlé latin, bas latin, français. Ils ont suivi toute l'évolution du latin vers le français avec nous finalement. Et c'est assez marrant à penser ça. Si vous voulez voir des perroquets en liberté, il y en a autour de vous. Il y a notamment un oiseau qui s'appelle la perruche à collier. Mais il y en a partout, hein. Il y en a 50 000 à Londres qui se sont installés, il y en a 10 000 à Rome, à Bruxelles, il y en a à Paris, il y en a au port de Montsouris, il y en a autour de Orly. Parce que cette perruche à collier, on l'appelle la perruche Houdini, du nom de ce magicien qui se sortait de tout, parce qu'elle sort très facilement de ses cages. Et on peut en voir, là, j'en ai vu ce matin à Paris, hein, place d'Italie. On se croirait en Amazonie quand on voit ces espèces de silhouettes avec ces cris stridents. On est en plein Paris, on voit des perruches.
Vient de San Francisco, il est vert devant et rouge dans le dos. Mon cousin Pablo m'en a fait cadeau. Un jour que le vin lui collait chaud.
Ça vous est venu comment alors? Cette passion des perroquets.
C'est très drôle, c'est parce que j'avais ma petite dernière voulait être vétérinaire. Alors bon, à la base j'adore les animaux parce que j'ai toujours eu des animaux chez moi quand j'étais enfant avec papa et maman. Et puis on habitait à la campagne, à 10 km de Rambouillet. Donc j'ai toujours adoré les animaux, mais je fais énormément d'allergies, mais même aux plumes, hein. Mais bon, c'est une passion, donc je prends des médicaments, c'est pas grave. Et j'ai de l'eczéma, un peu, pas grave, tant pis. Et un jour, on regardait 30 millions d'amis, et on a vu, c'était un coureur cycliste, je me rappelle plus son nom, mais c'était un coureur cycliste qui en fait s'occupait et dressait les perroquets. Donc on a vu son cacatoès qui faisait du vélo, et voilà. Et il en parlait, mais ce gars était absolument passionné aussi. Alors bref, j'ai trouvé ça extraordinaire, et avec ma fille, on s'est dit, tiens, si on essayait. On a attendu 2 mois, on a regardé des livres et puis on a passé le pas, on l'a fait. Donc on est allé chercher le premier gris du Gabon, donc qui était bébé, qui s'appelait Virtuose, qu'on avait baptisé Virtuose. Et puis l'éleveur nous a dit, vous mettez le doigt dans l'engrenage, si vous mettez le doigt dans l'engrenage, vous verrez. Et puis en septembre, on a repris le travail, ma fille est rentrée à l'école, etc. Et puis il est enfermé donc en cage à l'époque, hein, parce que évidemment je connaissais rien. J'avais lu que les livres, donc dans les livres ils disent bien qu'ils vont le mettre en cage, donc c'était une cage. Et puis j'ai vu ce perroquet qui, j'ai dit tiens c'est plus le même. Et puis au bout d'un moment il commençait à tirer un peu, à s'occuper de son plumage, et ça assez vite, hein. Et puis, on a trouvé que l'Amazon était magnifique. Donc, j'ai dit, tiens, on va prendre un copain. Donc, je suis allée acheter Gourmandise. Et puis après, j'ai fait, mais c'est super mignon, les petits Amazones amazoniques. Et hop, on a acheté Juju et voilà.
Ça a été le début de l'engrenage.
Voilà, ça a été, voilà.
Mon petit perroquet chante tous les matins. Il joue au yo-yo et fait couler mon bain.
Peut-être qu'on va aller faire un tour pour que vous nous montriez aussi
oui.
Les autres pièces de la maison et les autres perroquets. Il y a plein d'objets
voilà.
Qui sont suspendus, plein de jouets, des perchoirs,
ouais. La pièce
de toutes les couleurs, de toutes les formes.
Ouais. Plein de jouets. Oui, le perroquet joue énormément. Les Amazones, ça joue énormément. Alors ça, c'est une boule, ça c'est extraordinaire ça. Il joue, parce que quand on bouge, elle fait du bruit. Bon, il y a la cloche, mais... voilà. Et alors ça, il joue beaucoup avec ça.
Donc vous n'avez jamais une maison silencieuse?
Jamais. Puis on va monter voir le... Tu fais pas de bêtises, hein. Ah, ça y est, il y a déjà les fruits qui sont par terre. Ça, ce sont les gris.
Voilà. Et la pièce des haras. Alors là, ils sont pas dedans pour l'instant. Je vais les enlever tout à l'heure. Oui, mes belles chéries, oui. Maman arrive. Voilà, donc ça c'est la pièce des haras. Voilà, avec pareil, plein de jouets et de. Voilà. Là, quand il fait 20 degrés, je pourrais les sortir. Hein. Là, je n'ai pas nettoyé la volière, je n'ai pas vérifié toute la volière, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de moisissures ou de choses comme ça, hein, parce qu'ils attrapent très facilement l'aspergillose. Donc il faut que j'ai tout nettoyé, tout carchérisé avant de les mettre, j'ai pas eu le temps. Et là, c'est la pièce des gris. Voilà.
Elles font quelle taille ces volières?
6 mètres carrés, 2 sur 3. Les Amazones ont beaucoup de branchages. Je leur ramène des branches, alors surtout en ce moment avec les petits bourgeons, je leur ramène des branches de noisetier et puis du bambou.
On va voir les haras.
Le hara runa n'est pas... Enfin, c'est deux femelles. Elle n'est pas très destructrice. Mais mon hara chloroptère, voilà. Mes chambranles de porte. Et alors, dans la pièce, là, je ne vous dis pas. Ah, est-ce qu'il pose souci aussi? Voilà, pourtant elle a plein de jouets partout, mais même en élevage, quand elles ont de la place, ça détruit pas mal le chloroptère. Le perroquet, de toute manière, est quand même assez destructeur par nature. Moi personnellement, c'est pour ça que je veux plus de place, parce que bon, je me rends bien compte que un hara, surtout 6 mètres carrés, elles sont deux dans 6 mètres carrés, c'est pas top. Voilà, donc là c'est un petit peu égoïsme. Bon, ça me faisait très plaisir de les avoir, mais je pense qu'elles manquent de place, oui. Voilà.
J'arrive, les pucus.
Il y avait aussi Sidonie et Luna.
Alors Luna, c'est un cas intéressant, intéressant parce que ça s'est bien terminé. Luna est un cacatoès des Moluques qui est né chez moi. Au bout de quelques semaines ou quelques mois, je ne me souviens plus exactement, elle n'allait pas bien, elle était toujours dans son coin. Et puis un jour, ben elle ne mangeait plus. Elle était maigre, je l'ai ramenée dans la cuisine et j'ai vraiment vu qu'elle ne mangeait plus. Luna était devenue anorexique. Et on m'avait dit, je me souviens toujours d'un psy qui m'avait dit, avec une personne anorexique, il ne faut pas parler de nourriture. On fait tout, on parle de tout sauf de nourriture. Donc je me suis dit, avec Luna, on ne va pas parler de nourriture. Quand j'apportais à manger, je ne lui donnais pas à manger à elle. Et un soir, je faisais une quiche. Et j'avais du fromage râpé. Et Luna était à côté de moi, elle regardait. Et je la vois commencer à avancer une petite patte vers un peu de fromage râpé. Je tourne tout de suite les yeux. Je fais comme si je ne voyais pas. Elle a pris le fromage râpé, elle l'a porté à son bec. Ah, j'ai dit, ça y est, elle a mangé. Donc j'ai attrapé du fromage râpé, j'ai posé du fromage râpé partout où elle était. Elle a commencé à manger du fromage râpé. J'ai dit, ça, ma belle, merci de m'avoir donné la solution. C'est pas une nourriture pour perroquet, mais le processus d'aller manger était bon. Le lendemain, j'ai préparé des légumes, des fruits, j'ai mis les fromages râpés sur le dessus, légumes, fruits pour perroquet en dessous. Elle a mangé le fromage râpé, peut-être qu'elle a vu qu'il y avait des légumes. Le surlendemain ou deux jours après, j'ai mélangé le fromage râpé aux fruits et aux légumes. Pour manger le fromage râpé, il fallait bien qu'elle mange un petit pois cuit avec du fromage râpé. Et on a travaillé comme ça, le poids s'est stabilisé, puis après elle s'est mise à manger. Et puis quand elle a pu voler, maintenant elle est en grande volière avec une copine et tout va bien. Ça a mis un an et demi, ça s'est pas fait en 8 jours, mais elle est sauvée.
Alors, je m'appelle Muriel Alneau, je suis docteur vétérinaire, diplômée en troubles du comportement et je m'occupe notamment des perroquets sur lesquels j'effectue de la recherche dans le domaine du stress et des troubles du comportement. C'est un animal qui est un oiseau, donc ça vole, ça a besoin d'espace. Historiquement, on leur coupait les plumes pour les empêcher de voler. On les oblige à rester dans des espaces confinés, sauf que ça n'est pas un chat qui a été domestiqué depuis des centaines d'années auquel on s'adresse. C'est un animal qui vole et souvent on l'oblige à être dans une petite cage dont il ne sort pas forcément et ça a un impact qui peut être très négatif, oui.
Vous constatez quels troubles chez ces perroquets ?
Alors principalement de l'agressivité et du piquage. Sachant que le piquage n'est pas limité, n'est pas simplement une expression d'un trouble comportemental, mais peut être un symptôme de absolument tout en termes de maladie. Il faut toujours vérifier l'ensemble des symptômes et la logique pour dire il s'arrache les plumes, donc c'est du piquage comportemental parce que il n'y a rien d'autre. Et ensuite, on identifie éventuellement aussi des éléments gênants comme la cage qui a changé de place ou un chien qui est arrivé dans la famille. Une fois qu'on les a, on essaye de faire le mieux qu'on peut, donc suffisamment d'espace. On se fonde notamment sur l'envergure, hein, l'ouverture des ailes pour définir une taille de cage, une hauteur de cage. C'est encore mieux si on peut avoir des volières ou en tout cas la possibilité pour le perroquet de pouvoir voler, même dans une maison. c'est bien de respecter des alternances jour-nuit. On dit en gros, pour résumer, 8 heures passées à s'alimenter, 8 heures passées à se toiletter, 8 heures passées à dormir. Donc si on arrive à reproduire ça en captivité, déjà on a fait un premier pas vers le bien-être qu'on peut leur proposer. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est bien de ne pas prendre ces oiseaux-là.
La 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 la. T'as eu peur du...
Il y a un rachleuroptère qui adore danser avec moi. J'adore Roberto Alagna et du coup, je leur fais écouter beaucoup de Roberto Alagna. Elles aiment bien. C'est mon chouchou. J'adore sa voix. J'aime bien le classique et j'adore le lyrique. Voilà. Donc, elles écoutent pas mal de lyrique. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Elles écoutent de tout. Hein. Du Souchon, de tout, tout, tout. La variété française. Mais je chante avec elles. Juju, j'avais commencé à lui apprendre le... Et il commence à siffler les premières notes de la Marseillaise.
C'était les chambres de vos enfants.
Donc là, on va... Oui, mes belles. Là, en ce moment, on réfléchit à transformer l'abri de la piscine, en fait, en grande véranda, justement, pour les perroquets.
Donc, c'est vous et votre mari?
Oui.
Lui, du coup, il accepte? C'est facile ou pas de vivre avec cette passion?
Non, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. Ça pose des soucis. Quand j'en avais un, deux, ça ne posait pas trop de soucis. Bon, maintenant, j'en ai huit. J'ai occupé des pièces, donc oui, ça pose des soucis. Ouais. Quand l'autre conjoint n'est pas passionné, c'est pas facile.
Parce que ça vous prend combien d'heures par jour?
Ben, le matin, je passe à peu près 3 heures et le soir, en faisant très vite, 2h30, le temps de tout nettoyer. Parce que c'est long, hein, de nettoyer toutes les volières, c'est pas comme une cage. Hein. Une cage, ils font les fientes et les fruits tombent au fond de la cage. On n'a qu'à nettoyer le plateau une ou deux fois par semaine. Moi, là, quand elle mange... Surtout la grenade, il y en a partout. Donc il faut tout nettoyer.
Et est-ce que vous arrivez toujours à partir en vacances ou en week-end?
Alors, jusqu'à présent, effectivement, depuis 6 ans, je partais pas en vacances parce que les enfants faisaient leurs études. Tant que j'ai eu 4 perroquets, j'emmenais les perroquets. Là, par exemple, on commence à repartir un petit peu. Donc là, ça pose plus de soucis. Il faut que quelqu'un vienne les garder. Les haras, j'ose pas les confier à quelqu'un. Parce que, le hara, enfin, surtout mon chloroptère, ma femelle chloroptère, elle a un caractère très, très fort. Et donc, quand elle aime pas, elle pince, hein, elle y va avec le bec. Et c'est très puissant, très, très puissant. Mais sinon, le fait que bon, il crie de temps en temps ou non, c'est sympa, c'est la vie. Un enfant, ça crie, un enfant, ça joue, un enfant, ça voilà, c'est tout le temps accroché. Et maman ci et maman ça, le perroquet, ça fait pareil. J'ai remplacé les enfants par les perroquets, peut-être. Non.
Est-ce que c'est difficile de partager cette passion avec votre entourage et avec les gens qui vivent avec vous?
Alors, la première difficulté, c'est la jalousie. Alors, il y a deux sortes de jalousie. Il y a le perroquet qui est jaloux et il y a les conjoints, le conjoint qui peut être jaloux. Quand le conjoint n'est pas jaloux, il y a les enfants qui sont jaloux. T'en as que pour tes perroquets. Il y a les petits-enfants qui disent « Oui, bon, d'accord, les perroquets, mais enfin, quand est-ce que tu viens nous voir ?»« Bah oui, je veux bien, c'est Noël, je veux bien, mais j'ai personne pour garder mes perroquets, donc si vous voulez venir à la maison, vous venez, mais moi, je peux pas y aller. » C'est pour ça que quand on adopte un perroquet, on doit absolument faire un conseil de famille avant. Si quelqu'un vous dit « Non, moi, je veux pas de perroquet », alors on va aller au clash où on se sépare du perroquet et malheureusement, les perroquets font entre 4 et 6 familles différentes dans leur vie. Un perroquet vit entre 17 ans pour les toutes petites espèces, mais peut aller jusqu'à 100 ans pour les aras. Mais il y a aussi, on divorce, on se remarie, le mari est jaloux, les enfants veulent plus. C'est très difficile. Un perroquet, c'est, quand on adopte un perroquet, c'est pour la vie, quoi. C'est pas pour 8 jours.
Et toi, mon chéri, qu'est-ce que tu viens faire ici?
Non.
Ah bah oui, tu veux... Qu'est-ce que tu veux? Tu veux... Mais non, tu sais... Moi, je suis pas d'accord. Tu sais que je veux pas que tu manges mon collier. Hein? Et toi, qu'est-ce que tu veux?
J'avais un petit cacatoès blanc, tout petit. Il s'appelle Wasabi. Il était venu en vacances chez moi et Waza s'arrachait les plumes. Bon, il était amoureux, mais chez moi, il vivait bien. Il vivait sa vie sans plumes. Je lui avais dit, si t'as froid l'hiver, je te tricoterai pas un pull. Hein. Tu te débrouilles, si t'as froid, tu te fais pousser les plumes. Bon. Et puis un jour, il était... Allô, gamin, comment ça va? Ça va? Je mets gamin dans la, Wasabi dans la cuisine et la salle, j'avais des invités dans la salle à manger. Et pendant que nous étions en train de manger avec des amis qui n'avaient pas un intérêt particulier pour les perroquets, il était tard le soir, je vois mon petit Wasabi qui marche, qui arrive dans le salon sur ses deux petites pattes sans plumes, qui vient à la chaise d'un de mes amis qui était là. Le petit perroquet monte sur l'épaule de ce monsieur qui avait une trouille monstre, une peur en disant « qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ?» Mon petit Wasabi monte sur l'épaule de ce monsieur, se met contre sa joue et le caresse gentiment de la tête. J'étais étonnée parce que Wasabi n'a jamais fait ça avec personne. Il n'allait jamais voir personne. Et là, j'ai compris ce qui se passait. Moi, je savais que mon ami était en fin de vie d'un cancer. C'était justement la dernière sortie qu'il faisait chez nous. Le perroquet est venu voir le seul. Il est venu, il est monté, il lui a fait des grands câlins, il est reparti. Donc si on est dans une famille joyeuse, le perroquet chante, crie, tout ça. Au moment où il y a un problème dans la famille, le perroquet, ce sont des éponges à émotions. Ils le ressentent. Et c'est aussi une grande partie des problèmes de comportement d'un perroquet. Très souvent, il y a des changements de comportement parce qu'il y a des changements d'humeur dans la famille. Et comme j'ai l'habitude de dire, mais c'est très difficile de dire ça à une famille qui vous demande d'aider le perroquet en difficulté. On dit, le perroquet ne fait pas des choses bien, le perroquet. Et ce qu'il faut se dire, c'est, est-ce que la famille, où est le problème? C'est souvent la famille. Il faut faire une thérapie de groupe. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a un perroquet en difficulté, faire venir le mari, tous les gens qui sont autour, le mari, les enfants. Et on voit très bien quand un ne veut plus, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar-là? Et je regarde l'œil du perroquet. Je vois à quel moment le perroquet est en difficulté, avec qui. Parce que le perroquet vous explique tout ce qui ne va pas. Et nous, on ne comprend pas ce qu'il faut changer. Donc c'est à nous de changer et de comprendre.
C'était l'intelligence du perroquet. Merci à Suzy Libart, Isolde Di Marco, Irène Pepperberg, Dalila Beauvais et Agatha, Muriel Alno-Perronin, Marc Giraud et Olivier Berotte. Un merci tout particulier au Gris du Gabon, Gamin et Julot Le Merdier. Coordination, Irène Omelianenko. Attachée de production, Christine Bernard et Eve Etienne. Prise de son, Philippe Etienne. Mixage, Stéphane Desmonts. Un documentaire d'Anne-Cécile Perrin et Véronique Villa pour Sur les Docs.
Tous les perroquets nous ont tous entendus dire, décrocher le téléphone, dire allô. Et il faut des fois faire très très attention à ce qu'on dit parce que un monsieur qui rentre le soir et qui entend, il s'appelle Georges et qu'il entend le perroquet qui avec la voix dit Joseph mon amour, oh je t'aime mon amour mon chéri, Joseph c'est le meilleur ami, c'est arrivé, il y a eu des divorces à cause de ça. C'est courant. Le perroquet va vous raconter des tas de choses comme ça. Et il va imiter la voix de l'autre. Donc il faut faire très, 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 très attention. Je le dis toujours, ils sont intelligents à nous d'être plus malins.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcast pour La Volière, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, quatrième épisode, les gorilles ne connaissent pas le règlement. Mais dans un instant, retour dans la vie intérieure avec Christophe André.